Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chaque jour, de 13h à 14h, nous mettons en avant des Françaises et des Français qui ont des idées, qui osent. Et ensemble, on écoute le monde changer. Vous êtes au bon endroit pour découvrir des parcours de vie autour d'histoires entrepreneuriales. La France bouge sur Europe 1. On en parle avec vous, Emmanuel Duteil. Vous êtes le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag. Bonjour à toutes et à tous. Ils ont des parfums comme Montblanc, Coach, Boucheron ou Van Cleef & Arpels. L'Interparfum est un des géants français de ce secteur. Tiens, bah justement, comment se porte ce marché du parfum? On va en parler jusqu'à 14h avec le fondateur d'Interparfum.
À la une, en effet, le parfum. Que sent un musée? Quelle est l'odeur de mon magasin préféré? Comment créer le parfum d'un lieu? Emosens, c'est la start-up, on la découvre d'ici quelques minutes.
Alors eux, c'est l'une des premières maisons de parfum de France. Elle s'appelle Gallimard. Ils sont nés en 1747. Oui, j'ai bien dit 1747 et ils sont toujours là-bas, à Grasse. Gallimard, ce sera notre saga du jour, vers 13h30.
Ils promettent d'être une parfumerie qui réenchante l'olfactif. Ça s'appelle Nolensa. C'est le pitch du jour, les trophées Europe 1, la France bouge. Rendez-vous à 13h45 pour les découvrir.
Et puis demain au travail, il a créé un poste de formation dans son entreprise. On passera un coup de fil au dirigeant de la DV Academy en fin d'émission pour tout savoir.
Allez, bienvenue dans la France bouge. C'est parti, vous pouvez nous suivre sur Europe1.fr, Twitter ou encore Instagram, il y a des très jolies photos. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
Europe 1.
Alors, on n'a pas encore de compte olfactif, mais il faudrait peut-être y penser cas pour cette émission, émission exceptionnelle autour du parfum. Et on en parle avec notre témoin du jour, jusqu'à 14h.
Bonjour Philippe Bénassin.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le PDG d'Interparfum. Interparfum existe depuis 35 ans, 300 salariés. Vous avez une activité de parfumerie de luxe hein, avec des marques internationales comme Jimmy Choo, Montblanc, Rochas, Coach ou encore Lanvin. Une entreprise cotée en bourse. C'est simple, hein, chez Interparfum, vous avez tout le temps gagné de l'argent depuis 1983. Alors Philippe Bénassin, ma première question, comment se porte le marché du parfum aujourd'hui après tous ces confinements, tous ces couvre-feux?
Alors il s'est porté en 2020, évidemment c'était un peu plus difficile puisque beaucoup de magasins étaient fermés sur terre, pas seulement en France. Donc l'année a été une petite année pour tout le monde en parfumerie et de manière assez curieuse, c'est reparti très très fortement depuis à peu près octobre-novembre 2020.
Pourquoi curieuse, de manière curieuse?
Parce qu'on ne s'y attendait pas. On pensait que ça allait reprendre à petite vitesse et que ça n'allait pas remonter fortement. Et en fait, à partir du premier trimestre 2021, c'est remonté très fortement. Le second, ça a continué. Le troisième, ça continue. Et aujourd'hui, les marchés sont exceptionnellement hauts.
Mais ça
encore
veut dire
de manière inattendue.
En termes de chiffres, quand vous dites que c'est exceptionnel,
En termes de chiffres, ça veut dire qu'on est au-dessus de 2019 à peu près partout, à part le Moyen-Orient. Tout le reste est au-dessus de 2019. Et certaines zones comme les US sont au-dessus avec plus 30, plus 40. Je ne parle pas de plus 5 ou plus 10.
Alors j'espère ne pas dire d'annerie, mais 2019 était déjà une année exceptionnelle, voire une année record. Est-ce que l'on peut donc résumer ça, Philippe Bénassin? Nous n'avons jamais vendu autant de parfums dans le monde qu'en ce moment.
En ce moment, oui, absolument. On n'en a jamais vendu autant, et parce que nos retailers et nos distributeurs n'ont jamais vendu autant, et parce qu'il y a une demande des consommateurs très haute, puisqu'on n'a pas mené d'action spécifique par rapport à cette situation de marché. Il y a une vraie demande des consommateurs, mais je dis surtout aux États-Unis qui drivent la croissance de manière phénoménale, plus que le reste du monde. L'Asie, c'est pas mal. L'Europe se remet aussi en place, mais c'est les États-Unis qui ont fait un coup d'accélérateur phénoménal.
Mais comment vous l'expliquez? C'est eux qui portent le marché? Ça veut dire que les Américains ont changé leurs habitudes?
Alors, c'est une question qu'on se pose et qu'on se posait encore récemment. Et on avait deux, trois explications de gens qui sont américains et qui vivent aux US et qui nous disaient ce qui s'est passé après, pendant le Covid et après les confinements, c'est que les gens, ou pendant les confinements plutôt, c'est que les Américains ont compris que le parfum, en fait, c'était aussi pour soi et c'est pas seulement pour sortir et que c'est agréable de se parfumer vraiment pour soi, même en restant à la maison. Et il semblerait que le niveau de marché du fait de ça a monté de manière importante.
Donc c'est assez impressionnant parce que personne n'avait vu cela venir. C'est une des raisons aussi du marché en Europe où on se parfume, où là c'est très américain comme...
Non, c'est très américain. Et en Europe, les marchés sont relativement hauts, mais ils sont au niveau de 2019, pas plus.
Donc aux États-Unis, c'est plus 50% presque hein,
Pratiquement, c'est ce genre de chiffre. Et le reste du monde, c'est entre moins 5
pour la moyenne. Mais c'est propre au parfum que vous vendez, vous, chez Interparfums, ou c'est une tendance globale du marché ?
Non, c'est une tendance globale. C'est pas propre à nous. On n'a mené une fois de plus aucune action spécifique. On a même plutôt un niveau de publicité qui est plus bas cette année que celui de 2019.
Alors, mais il va remonter à la fin de l'année. C'est impressionnant, ça joue contre nous parce que des radios comme nous, on vit quand même, et grâce à vous, parfois un peu de la publicité. C'est-à-dire que vous vous dites aujourd'hui que tendanciellement, vous aurez moins besoin même de faire de communication autour de vos parfums parce qu'ils se vendent comme des petits pains ?
Non, parce que d'abord, je pense que c'est très ponctuel et qu'à mon avis, ça ne va pas durer en 2022. Je pense qu'il y a un regain qui s'est produit cette année 2021. Notre communication, elle sera finalement cette année plus haute que 2019. Donc, je suis content pour vous. Ça va continuer dans
Merci,
le bon sens.
Il n'y
a pas de souci à vous faire. Mais on va voir 2022 ce qui se passe. Je pense que ça va se stabiliser en 2022. Je suis quasi sûr que la croissance ne va pas continuer à se rythme.
Si on rentre un peu dans le détail, est-ce que dans le choix de ces parfums, est-ce qu'il y a-t-il eu des envies différentes de d'habitude, des senteurs, des odeurs, pas comme d'habitude, pas comme les autres ?
J'ai pas l'impression. Alors, comme on a beaucoup de jus, on doit avoir 200 jus, on dit jus en parfumerie, mais enfin 200 parfums. Et sur ceux-là, on a à peu près une vingtaine de leaders. Les leaders ont très bien marché. Alors, s'il y a une tendance qu'on a ressentie, c'était intéressant, c'est qu'en fait, c'est les parfums qui ont été lancés plus anciennement que les récents qui ont mieux marché.
On a voulu revenir à une forme de tradition.
Exactement, c'est ce qu'on a senti, puisque sur tout le portefeuille, on s'aperçoit que les entre guillemets produits qui ont plus que 4-5 ans, donc qui sont un peu plus anciens que les autres, ont mieux marché que les récents.
Avant de venir peut-être au détail justement de vos marques et d'entrer vraiment dans les coulisses, quand on fait face à une telle progression des ventes, et vous dites vous-même avoir été surpris, est-ce que vous arrivez à en produire suffisamment pour faire face à la demande ?
Alors non. La réponse, c'est non.
C'est-à-dire qu'il y a des ruptures de stock parfois.
Oui, il y a rupture de stock partout, actuellement. Partout. Il n'y a aucune commande qui part normalement. Et l'ensemble de l'industrie, donc en amont, a aussi été très surpris et n'a pas repris le rythme. Donc on travaille en just-in-time, ce qui n'est jamais arrivé. Et on livre en fonction des productions qu'on peut faire sur le mois. Donc on est très freiné, mais à la limite, ça va quand même.
Vous les produisez où, justement, vous, vos parfums ?
La production est 80% européenne, et sur ces 80%, il y a plus de 50% en France. Donc on est vraiment franco-français sur la production, et très peu asiatique. On a un petit 20% de produits ou composants qui viennent d'Asie, mais vraiment le gros de la production, c'est français. En revanche, les ventes, la France n'est qu'à 10% dans les ventes, et on est à peu près dans tous les pays du monde, avec une forte présence en Asie et aux
États-Unis. Mais vous arrivez à
avoir
assez de flacons, par exemple, pour tous ces parfums ? Parce qu'ils ne sont pas toujours fabriqués en France, ces flacons, bien loin de là ?
Non, on n'a pas assez, parce que les verriers n'ont pas réouvert l'ensemble des fours. Ouais. Donc il y a des parties, il y a peut-être 30% d'activités qui ne fonctionnent pas encore chez les verriers. Donc
vous
on a
pourriez
pas
mieux
assez.
Faire, vous pourriez encore faire, enfin, ce serait
on pourrait,
ça pourrait
oui,
être
on pourrait encore
plus
mieux
important.
Faire, mais on a plutôt tendance à restreindre maintenant parce qu'on ne veut pas augmenter trop et que comme l'avenir est quand même assez incertain, puisque c'est très changeant, on se dit
mais
que...
Mais du coup,
vous
arrivez à faire passer des hausses de prix exceptionnelles, là, vous êtes tellement en position de force. On va payer plus cher nos parfums ?
Non, on ne le fait pas, on ne l'a pas fait du tout. On n'a pas augmenté nos prix depuis fin 2019. Et là, l'augmentation des prix, elle se fera en janvier, mais elle correspond à une augmentation phénoménale qu'on a sur nos composants. Parce que du fait de ce que je viens de vous dire, et comme il n'y a pas assez de composants, toute la chaîne a augmenté ses prix de manière importante.
Du coup, on va payer en moyenne combien en plus
de
nos parfums ?
De 3-4% à 30% sur les augmentations. Hein, c'est des trucs très
mais nous, on va payer combien au final ? Parce que vous pouvez réduire un peu votre marge, quand même. Vous nous dites que là, vous êtes riche à mignon en ce moment.
Non, je n'ai pas dit qu'on était riche à mignon, j'ai dit qu'on avait beaucoup de ventes.
Souvent, ça va avec.
Donc une hausse de 3-4% sur le prix du parfum à partir de janvier.
Je pense que ça va être 3-4% à partir de janvier chez à peu près tout le monde.
C'est du jamais vu, le marché du parfum se porte bien avec une croissance historique. Hein, c'est ce que vous nous dites, Philippe Bénassin. Vous êtes le PDG d'Interparfum et vous restez avec nous.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Un jour, il faudra qu'on vous fasse une émission backstage parce qu'il se passe beaucoup de choses également pendant les pauses publicitaires. On parle. On est tellement impressionné avec Elisabeth de ce qu'on vient d'entendre sur ces records dans le monde du parfum. Le fait, tout simplement, qu'il ne s'est jamais vendu autant de parfums qu'en ce moment. Et on en parle avec l'un des plus gros acteurs de ce marché. C'est Philippe Bénassin, le PDG d'Interparfums.
Et créer des parfums signatures d'un lieu comme des hôtels ou des musées, ça vous parle, j'imagine, Emmanuel, quand vous entrez dans un restaurant ou dans un musée, il y a une odeur.
Il y a toujours une odeur particulière. particulière.
Il y a toujours une odeur particulière qui peut rester, hein, qui donne peut-être envie d'y retourner. Et c'est ça, vous en avez fait votre métier, Stéphane Arfi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur d'Emosens. Emosens, c'est une entreprise qui existe depuis 2008. Et l'histoire de votre entreprise est intimement liée à votre passion pour le parfum.
Voilà, tout à fait, c'est ça. J'ai une activité, une expérience dans le marketing. Et puis en parallèle, j'avais deux passions, le foot et le parfum. Je suis très mauvais footballeur, donc je me suis lancé dans la seconde passion, le parfum, et puis le fait de pouvoir allier en fait mon expérience professionnelle, le marketing, avec le parfum.
Et donc
passion.
Vous vous êtes dit, je vais donner une odeur à un endroit, et à ce moment-là, en 2008, ça n'existait pas en France.
Ça existait, mais c'était très, très peu développé encore. Pendant deux ans, je lisais pas mal d'articles, je voyais beaucoup de reportages qui parlaient de marketing olfactif et qui nous expliquaient que c'était une activité qui avait déjà démarré dans de nombreux pays, notamment aux États-Unis, qui allait arriver en France, mais qui avait du mal à arriver. Donc, il y avait quelques acteurs, mais il y avait un développement qui était très, très faible.
Ouais. Alors justement, tiens, comment on crée un parfum pour une marque ou pour une entreprise ou pour un espace? Comment on travaille là-dessus?
On travaille un petit peu de la même manière qu'un architecte travaillerait sur un concept boutique ou hôtel. Donc, on prend les mêmes éléments, il y a un brief, on va retirer les principaux éléments de ce brief qui peuvent être liés donc au concept, à l'histoire de la marque, aux valeurs, à la clientèle. Et puis on en discute, on fait des allers-retours avec les parfumeurs pour pouvoir sortir les notes les plus favorables par rapport à la marque.
Et les marques l'ont bien compris, hein, parce que vous avez de plus en plus de demandes, hein, parce qu'il faut qu'elles se différencient aussi à travers cette signature olfactive.
C'est un marché qui s'est énormément étendu, qui s'est beaucoup développé ces dernières années. On le voit donc à travers la dimension des entreprises, puisque ce n'est pas que des grandes entreprises aujourd'hui qui développent le marketing olfactif, il y a aussi beaucoup de petites entreprises, de petites PME. Et puis on le voit aussi à travers le développement dans des activités qui sont très différentes. Quand on a créé Emosens en 2008, on travaillait beaucoup avec le monde de l'hôtellerie, beaucoup de boutiques. Et puis aujourd'hui, c'est tous les secteurs d'activité, c'est la culture avec les musées, c'est la santé avec des hôpitaux, des maisons de retraite.
Vous avez créé des parfums pour hôpitaux, pour maisons de retraite?
Alors,
pas des signatures.
Oui, on a créé. Alors nous, nos clients ont la possibilité soit de créer, puisqu'on a une partie création. On a aussi une collection de parfums. Les clients peuvent choisir un parfum au sein de notre collection. On a à peu près 5000 références.
Et ça sent quoi, par exemple, une maison de retraite?
Ben, chaque maison de retraite aura son identité olfactive, une identité olfactive différente. Comme je vous disais, on va étudier la marque, on va étudier ses valeurs, on va étudier le concept. Et en fonction de ça, effectivement, on va développer une marque ou un parfum ou proposer un parfum qui sera cohérent avec la communication de l'établissement.
Mais par exemple, tiens, allez, un studio de radio, ça doit sentir quoi? Vous, ça vous évoque quoi? Parce que j'imagine que si on fait appel à vous, c'est que vous avez une expertise que nous n'avons pas. Donc, c'est quoi? C'est au-delà de l'histoire de la marque, il y a l'espace qui entre en
aujourd'hui,
jeu.
Aujourd'hui, on est arrivé à développer une expertise, c'est vrai. Et puis, la société s'appelle Emosens parce qu'on travaille beaucoup sur les émotions. Je ne suis pas né, moi. Mais par contre, c'est vrai que par habitude, de partout où je vais, quand je rentre dans un endroit, la première chose que je vais remarquer, c'est l'odeur. En arrivant ce matin, je vois un grand bâtiment blanc, c'est très lumineux. Beaucoup d'ouverture et voilà, je serais parti sur une note fraîche, quelque chose, voilà, pas une note boisée, mais en tous les cas un parfum très frais.
Est-ce qu'on peut faire un lien entre le fait que ça puisse sentir bon d'une certaine manière et qu'on va rester soit plus longtemps ou acheter plus?
Oui, tout à fait, évidemment, puisqu'il y a des sondages qui le montrent et puis surtout des études scientifiques. On a travaillé nous-mêmes en direct avec des scientifiques qui ont démontré que le parfum faisait vendre. On sait qu'un client une boutique qui est parfumée, le client peut rester jusqu'à 40% de temps en plus dans la boutique parfumée. Donc on sait aussi, bien évidemment, que plus le client reste longtemps dans la boutique, plus il va consommer.
Et ça coûte combien de se faire fabriquer son parfum en moyenne? Parce que j'imagine que vous allez me dire que chaque cas est particulier, mais
ça
en moyenne.
Ça dépend de l'espace aussi.
Si on parle de création de parfum, ça coûte pas. C'est à la portée de beaucoup de bourses, la création d'un parfum. Après, effectivement, quand on va le mettre en application et quand il va falloir diffuser ce parfum dans les espaces. Bah, tout dépend du type d'espace parce que vous avez des petits hôtels et de deux étoiles où il va falloir mettre un, voire deux diffuseurs. Et puis vous avez de grands hôtels, des palaces où là, il y a une diffusion beaucoup plus importante avec une technologie que l'on va apporter bien plus impressionnante.
Philippe Bénassin, vous êtes le PDG d'Interparfums. Vous êtes notre grand patron du jour. Est-ce que chez Interparfums aussi, vous pourriez aller vers des signatures olfactives au sein d'espaces, au sein de parfumeries? Pourquoi pas? Parce que c'est vrai que parfois, quand on rentre dans des parfumeries, ça sent tellement le parfum qu'on a plutôt envie d'en sortir, tellement ça entêtant, non, c'est vrai.
Non, c'est vrai, mais parce qu'il y a beaucoup de parfums, qu'il y a beaucoup de testeurs et que les gens testent sur place, donc forcément ça sent beaucoup de parfums mélangés. Maintenant, quand vous les mettez sur mouillette, on y arrive. Alors, est-ce qu'on va faire ce métier-là ? Non, non, c'est absolument pas prévu. On est très occupé sur nos marques et nos développements, donc en général, le fait de se concentrer sur un seul sujet permet d'être meilleur.
Comment justement vous, chez Interparfums, vous créez vos parfums ? Parce que vous avez aussi une activité de créer complètement le parfum
complètement,
d'une marque. Parfois,
bien sûr, bien sûr.
Vous distribuez juste le parfum, mais vous en
non,
créez aussi.
Non, on ne distribue aucun parfum qu'on ne crée pas. Donc tout ce qu'on distribue et tout ce qui sort de chez nous est créé par nous. C'est intégré sur une chaîne de production verticale. Donc les produits que vous avez, la verrerie et autant que le jus et le capot, etc., et les packaging sont créés par nous, avec l'accord des marques, évidemment, quand on leur soumet. Ben, on travaille avec une dizaine, peut-être pas avec 5-6 sociétés de parfums. Dans ces sociétés-là, il y a 3-4 parfumeurs à peu près qui travaillent avec nous, donc ça doit faire 20-25 parfumeurs avec qui on travaille en direct ou indirectement. Et on travaille les olfactions, comme vous les travaillez vous aussi, je pense, de votre côté. C'est une discussion et c'est un aller-retour olfactif permanent pendant des semaines.
Quel est votre plus gros succès, Philippe Bénassin, chez Interparfums ?
Alors, je pense que c'est Mont Blanc, parce que c'est le plus inattendu. Quand on a repris la marque Mont Blanc, ou Jimmy Choo aussi, je pourrais dire, mais Jimmy Choo, il y avait un passé qui plaidait en faveur d'un succès, alors que Mont Blanc, il y avait un passé historique qui n'était pas très fort. Donc, on a repris la marque à la fin des années 2000, vers 2010. Et on a eu un succès important, assez rapide, qu'on n'attendait pas, parce que la marque est assez institutionnelle, elle n'est pas forcément liée à du parfum, elle est très masculine en plus, et le marché du masculin est plus réduit que le marché des féminins.
Non, une fois que c'est nous les hommes qui fonctionnons, c'est déjà pas mal. Hein.
Voilà, exactement. Et donc la marque est montée à des niveaux très hauts, relativement rapidement, pour finir à 140 millions. C'est vraiment beaucoup, 140 millions en masculin, en 2019.
Ça, c'est encore une belle réussite. Stéphane Arfi, vous êtes le fondateur d'Emosens. Vous allez parfumer quel espace là prochainement ? C'est quoi votre prochain projet ?
Oh, des projets, il y en a beaucoup. On peut pas, voilà, on va attendre. En tous les cas, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se développent, il y a beaucoup de choses qui sont dans les tuyaux. Et comme le dit M. Bénassin, on est aussi assez surpris de la reprise qui est.
Vous aussi, vous voyez là, les entreprises qui viennent vous voir en disant il faut qu'on renouvelle nos senteurs à la sortie de cette crise, il faut qu'on se réinvente ?
Ouais, tout à fait. Tout à fait. Il y a eu un arrêt au début du Covid, au début de la crise du Covid. Mais là, depuis quelques temps, quelques mois, c'est reparti. On ne sait pas pourquoi, mais c'est bien reparti.
Ouais. Bah, tant mieux, hein, vaut mieux que ce soit dans ce sens-là, là encore. Hein.
Et si vous voulez parfumer votre espace, alors hein, vous faites appel à Emosens. Hein. Merci Stéphane Arfi, vous êtes le fondateur d'Emosens. Merci d'être venu dans La France Bouge.
Et Philippe Bénassin, le PDG d'Interparfum, vous garde avec nous. Vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h.
Europe 1. La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
On est, hein, comme chaque jour, vraiment ravis de vous accueillir, là, du lundi au vendredi, autour de cette table de La France Bouge, de 13h à 14h. Si vous nous suivez depuis le début de cette émission, vous l'avez entendu, ils ne savent pas ce qui se passe, mais c'est record en ce moment dans le monde du parfum. C'est même assez impressionnant, il ne s'est jamais vendu autant de parfums qu'en ce moment. Et on en parle avec Philippe Bénassin, qui est le PDG d'Interparfums. Alors là, juste avant de s'interrompre, vous nous disiez notre plus gros succès en ce moment, c'est Mont Blanc. Et là encore, vous disiez, on est peut-être presque surpris par ce que l'on a réussi à faire. Mais comment, justement, vous arrivez à développer des parfums ? Quand une marque vient vous voir... On disait tout à l'heure, hein, vous avez des marques comme Jimmy Choo, comme Rochas, comme Coach, comme Lanvin. Quand toutes ces marques viennent vous voir, comment derrière vous travaillez pour respecter, j'imagine, l'image de la marque, l'environnement de la marque et pour les différencier les uns des autres ?
Bah, chaque marque a une histoire en général et on part de l'histoire pour recréer des parfums autour. L'histoire, elle n'est pas la même. On a parlé de Montblanc et Jimmy Choo, par exemple. On a deux marques qui sont complètement contraires. Il y a une marque très masculine et très institutionnelle, et une autre très, très féminine, très fun, pleine d'humour et de féminité. Donc évidemment, les deux histoires sont complètement différentes, et il faut essayer de travailler ces olfactions, ces packaging, ces communications par rapport à ce que je viens de dire. Donc notre job, c'est vraiment de transcrire ce que la marque représente de manière plus simplifiée, dans la mesure où on va se tourner vers un public plus large que celui de la marque.
Est-ce qu'en ce moment, vous voyez beaucoup de marques arriver, justement pour vous dire, oula, on voit que c'est en train de repartir, on va accélérer un lancement, on va en sortir un peu plus, ou ça ne change rien ?
Pas vraiment, pour une raison simple, c'est que le marché est très embouteillé, si on peut le dire, parce que mais c'est pas dans le même sens. Donc le fait qu'il y a une prime au leader aujourd'hui, donc c'est devenu très compliqué de rentrer des nouveaux parfums, ou en tout cas des nouvelles marques. Vraiment très compliqué, parce que tous les retailers du monde sont focussés sur leur top 20 ou leur, en termes de marque ou leur top 50 en termes de jus. Et évidemment, quand on arrive, on n'est pas dans le top 50, on est nulle part.
Aujourd'hui, c'est très compliqué de créer le nouveau Chanel numéro 5. Je crois que la seule grosse réussite de ces dernières années, c'est la petite robe noire de Guerlain, qui a réussi à se placer parmi les parfums les plus vendus, notamment en France. Et c'était historique, puisqu'il avait réussi à... Elisabeth, vous aviez fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, un sujet là-dessus bien. Quand c'est sorti. Ils avaient réussi à se classer dans les meilleures, les meilleures places.
Tout à fait, je confirme. Très fort.
Mais comment on se démarque? Parce que il y a tellement de parfums, vous venez de le dire, hein, c'est très embouteillé. Comment arrive-t-on à se démarquer pour que ce parfum soit, qu'on soit plus attiré par celui-ci plutôt qu'un autre? Surtout quand c'est féminin, dire le parfum c'est tellement féminin. Hein. Emmanuel,
non,
vous évoquiez. Non, mais c'est vrai, vous évoquiez le numéro 5. C'est emprunté de toute une histoire. Comment on arrive à se démarquer aujourd'hui en 2021 avec des nouveaux parfums?
On se démarque un petit peu par l'olfaction, mais c'est vrai que c'est compliqué dans la mesure où de créer des trendsetters, comme on dit, c'est difficile à faire. Donc on se démarque par les couleurs, par les packaging, par la communication, par les choix de médias aussi.
Par les égéries aussi,
par j'imagine. Par les égéries, évidemment. Voilà, vous avez bien répondu. Donc c'est à peu près ça qui va faire qu'on se démarque. Il faut que la globalité de ce qu'on vient de dire soit cohérente par rapport à la marque et qu'on ait l'impression de rentrer un petit peu dans la marque en achetant un parfum Jimmy ou Montblanc.
Alors vous n'allez peut-être pas vouloir vous fâcher avec certains de vos clients, mais là on a parlé des succès. Il y a obligatoirement des échecs.
Forcément.
C'est quoi le plus gros échec où vous étiez dit « Tiens, ça pourrait marcher », mais vous êtes passé complètement à côté?
Alors j'en pense à un très précisément parce qu'il a bien marché sur le marché français et pas à l'étranger, c'est Repetto. Et en fait, le business de Repetto, je pense, est trop petit en termes de taille. Ils n'ont pas assez de reconnaissance de marque en dehors de la France pour pouvoir faire un succès important sur le parfum. Donc en fait, on a plafonné autour de 10 millions d'euros alors qu'on pensait pouvoir aller plus loin.
Mais ça veut dire que vous n'avez pas su raconter l'histoire?
Non, je pense
qu'on
a bien su raconter l'histoire. On n'a peut-être pas analysé suffisamment le fait que la marque était peu connue hors France.
Alors on le disait, vous faites partie des plus gros acteurs de ce marché du parfum, mais à côté de géants, à côté de L'Oréal, à côté d'LVMH, on parlait tout à l'heure de Dior ou autre, comment on arrive comme ça, au fur et à mesure, à tracer quand même sa voie à côté de ces mastodontes? C'est même impressionnant de tenir cette place à côté de tels géants.
Bon, alors on est quand même largement plus petit que ces gens-là, puisqu'il y a à peu près 10 sociétés qui sont dans ce créneau-là sur Terre aujourd'hui, on est tout le temps ranké 8e ou 9e, ce qui est quand même pas mal. Maintenant, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai démarré il y a assez longtemps, puis on a démarré en 83, à une époque où les marchés étaient beaucoup plus ouverts qu'aujourd'hui, et on a eu la chance d'avoir les marques qu'il fallait depuis 90 pour monter petit à petit, notamment avec Burberry, puisque vous m'avez demandé dans les succès, j'ai parlé
qui
de moments.
Qui a failli être votre plus gros succès, votre plus gros échec aussi.
Non.
Quand ils sont partis de chez vous, ça a failli faire couler la boîte.
C'était pas mal du tout qu'ils soient partis. Moi, vraiment, quand on m'avait posé la question, j'avais dit de nombreuses fois en interne et en externe, s'ils partent, ça me va très bien, et s'ils restent, ça me va très bien aussi. Et le fait qu'ils soient partis a permis justement à Montblanc, Jimmy Choo, Coach, qu'on n'a pas cité, Lanvin, le rachat de Rochas, donc d'avancer sur un portefeuille beaucoup plus large aujourd'hui et beaucoup plus sécurisé.
Philippe Bénassin, c'est quoi votre prochaine licence de parfum?
Je ne sais pas aujourd'hui.
Vous savez que vous rêvez.
Ouais, on me demande ça souvent. Alors moi, je cite une marque que j'aime bien, mais qui est en licence avec L'Oréal, qui s'appelle Prada, que vous connaissez tous. J'aime bien Prada parce que j'aime bien l'histoire qu'elle raconte et j'aime bien ce qui est derrière. Mais donc, c'est une marque qu'on n'aura pas puisqu'elle a déjà été avec Pucci et qu'elle est avec L'Oréal maintenant et qu'elle est très bien traitée. En plus, on est très proche de nos concurrents. Alors, c'est un métier qui est assez sympa parce qu'on connaît bien les gens de L'Oréal, on connaît bien les gens de Chanel, LVMH, etc. Et il y a vraiment une relation amicale et très gentleman dans ce métier-là.
Chaque jour dans La France Bouge, Philippe Bénassin, nous découvrons une marque ou un endroit qui font la fierté de notre pays parce qu'ils traversent des générations et ils sont toujours là. Alors aujourd'hui, je vous propose de partir à Grasse. Depuis le 18e siècle, là-bas, un certain Jean Galimard avait créé des gants parfumés de roses et d'épices. Vous savez pourquoi? Pour tenter de masquer la terrible odeur des tannages de cuir. Parce qu'à l'époque, la ville de Grasse, c'était une ville de tanneurs, enfin à l'époque, au Moyen-Âge. Aujourd'hui, Galimard existe encore.
Oui, on peut même y composer son propre parfum. Galimard, c'est notre saga du jour dans La France Bouge, racontée par notre nez à nous, Quentin Paillet.
Europe 1, La France Bouge,
La saga.
Jean de Gallimard commercialise des gants en cuir. Pour ça, il va très souvent à Grasse, dans le sud de la France, centre important de la tannerie du cuir au XVIIIe siècle. Et Jean de Gallimard aime quand ça sent bon. Oui, mais voilà, fabriquer du cuir, cela ne sent pas bon du tout. Alors, en 1747, il a l'idée de parfumer ses gants en cuir. Cela tombe bien, à Grasse, il y a des gens de fleurs partout. Stéphane Roux, directeur adjoint de Gallimard.
Ça a eu un succès assez fort à la cour du roi Louis XV à l'époque. Il faut savoir qu'à Versailles, il faisait tout pour essayer d'avoir des bons parfums. Jean de Gallimard avec ses gants parfumés, ça fait une petite révolution.
On peut dire de la parfumerie Gallimard qu'elle a deux naissances, 1747 avec Jean de Gallimard et 1920 avec la famille Roux. Chez Gallimard, tout se fait en famille depuis quatre générations. En 1920, Siméon Roux, l'arrière-grand-père de Stéphane Roux, est courtier en fleurs, bien implanté à Grasse, et son fils Joseph, ingénieur chimiste, décide de faire revivre l'histoire de Gallimard.
Alors aujourd'hui, on ne fait plus de gants parfumés et l'industrie de cuir à Grasse n'existe plus vraiment. Ça s'est vraiment orienté vers la parfumerie. Nous, ce qu'on fait, ce qu'on propose, ce sont vraiment des découvertes de l'univers du parfum pour le grand public. Et aussi, on a notre gamme de parfums que l'on vend en direct dans nos usines, dans nos boutiques et qu'on exporte.
Dans les années 1950, la maison Gallimard ouvre une première boutique à Grasse, puis elle s'exporte. L'entreprise a des clients dans le monde entier. Mais alors, pourquoi rester à Grasse? Tout simplement parce que la ville, à une vingtaine de kilomètres au nord de Cannes, est considérée comme la capitale mondiale du parfum. Et la matière première, les fleurs, y est en abondance et à portée de main.
Il y a beaucoup moins de champs de fleurs à Grasse et dans notre région qu'avant, mais il y a vraiment cet engouement avec beaucoup de cultivateurs qui reviennent maintenant. Mais il y a certains ingrédients, certaines matières que l'on ne peut pas trouver sur place, donc il faut aller les chercher à l'étranger, comme la rose de Bulgarie par exemple, comme l'ylang-ylang qui vient de Madagascar.
Une quinzaine de parfums pour hommes, une quinzaine pour femmes, des bougies, des savons. La maison Gallimard propose aussi à ses clients, aux visiteurs de Grasse, de créer eux-mêmes leur propre parfum avec l'aide d'un nez, un professionnel de la parfumerie.
Des parfumeurs qui accompagnent les gens qui souhaitent vraiment se plonger dans l'univers de la parfumerie, avec des ateliers qui durent à peu près 1h30 à 2h. Après cette création, on comprend un peu l'architecture du parfum. On repart avec son propre flacon et sa propre création de parfum et avec un diplôme d'élève parfumeur. Donc c'est un côté un peu ludique, c'est un côté un peu fun aussi. C'est très sympathique, très agréable et c'est accompagné par nos parfumeurs.
La maison Gallimard reste discrète sur ses ventes, mais chaque année, plus de 200 000 visiteurs poussent les portes de leurs boutiques, musées et ateliers de parfum.
Voilà, c'était la saga du jour racontée par Quentin Payet de l'équipe de La France Bouge. Philippe Benassin, ça vous inspire quoi, Gallimard, des maisons comme ça? 1747, c'est vraiment le made in France, la tradition française dans son plus bel exemple.
Ils ont démarré bien avant nous, hein. Déjà.
Bah on va essayer de tenir pour vous réinviter aussi dans 200 ans.
Pas d'accord, avec plaisir, on va prendre date en sortant. Gallimard, bah c'est bien ce qu'ils font. Ils ne font pas le même métier que nous, c'est très artisanal, c'est très pur. Et vraiment, bravo.
Si vous voulez bien, maintenant, on va vous demander d'accompagner et de coacher, pourquoi pas, hein, une entrepreneur qui est aussi sur le secteur des parfums. Vous êtes prêts?
Bah d'accord, avec plaisir.
C'est parti.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Il y a une bonne odeur dans ce studio aujourd'hui pour La France bouge, hein, chaque jour entre 13h et 14h sur Europe 1. C'est parti pour notre trophée de l'avenir Europe 1. La France bouge, chaque jour, il tente. Où elles tentent de vous convaincre. Pour cela, ils défendent leur dossier devant l'œil attentif de notre témoin du jour. Attention, aujourd'hui, c'est un spécialiste, hein, Philippe Benassin, qui est le patron d'Interparfum. Et puis, on va retrouver bien évidemment notre autre spécialiste en charge là, de tous les dossiers et en charge de l'entrepreneuriat, la Chambre de commerce et d'industrie, notre formidable Nathalie Carré.
Et une fois de plus, un projet d'entreprise dans la France bouge. Aujourd'hui, il a été lancé il y a un peu moins de 2 ans. Bonjour, Laurie Mélotte.
Bonjour.
Vous avez 29 ans. Vous avez donc fondé Nolensa. Nolensa, ça s'écrit Nolensa. Vous proposez du parfum, hein, du parfum quasiment sur mesure, hein, quand on va se connecter sur votre site internet, hein, vous nous demandez si on est plus rose, plus plein de choses, hein. J'ai fait
bergamote,
le test hier,
bergamote. Boisé.
Voilà, alors de quoi s'agit-il? C'est quoi Nolensa? Eh bien, on va vous laisser dérouler votre pitch. C'est parti, vous avez une minute.
Merci.
Nolensa, c'est la parfumerie lifestyle et engagée qui réenchante l'olfactif. Donc nous proposons des parfums clean, éco-responsables, créés par des grands parfumeurs dans des formats accessibles et écologiques. Notre collection est composée d'une gamme de 4 eaux de parfum, une eau de toilette. Donc entre 85 et 91% d'origine naturelle, des flacons rechargeables et donc recyclables, de l'alcool bio de blé, et puis aussi 3 parfums solides, naturels et sans alcool, vanille, santal et fleur d'oranger, à porter seul ou en mix and match avec nos autres parfums. Chez Nolensa, en fait, ce sont vraiment les odeurs qui nous font vibrer au quotidien. Et c'est pour ça qu'on aime prendre le temps de remarquer ces odeurs qu'on aime, qu'on déteste, celles qui nous font pleurer, aimer. Voilà, pour nous, c'est s'octroyer des moments de légèreté dans notre journée. Et donc voilà, aujourd'hui, Nolensa, vous pouvez la retrouver sur nolensa.com, donc en ligne, et chez une vingtaine de revendeurs entre la France et la Belgique. Et puis aussi à écouter avec le podcast olfactif que j'anime, où vous pourrez retrouver différents intervenants parler de leur sensibilité olfactive.
Bah, bravo pour ce pitch, parce qu'on peut dire que vous êtes passionné, on le sent que vraiment vous avez envie de défendre cette très jolie marque. Alors, vous n'avez pas donné les prix, mais comme la plupart de tous ceux qui passent à ce micro, on se dit que c'est mon boulot, donc je le fais. On m'a dit que ça valait 42€ les 30 millilitres, je ne dis pas d'annerie en disant ça.
C'est ça, exactement.
Bon, et ben voilà, j'ai fait mon boulot.
Et vous vendez essentiellement via votre site, via le numérique.
Ouais, exactement. Pour le moment, notre site est notre plus grosse partie, et puis après, il y a une vingtaine de revendeurs entre la France et la Belgique, et on espère conquérir l'international bientôt.
Bonjour Nathalie Carré.
Bonjour Elisabeth, bonjour Laurie, bonjour Emmanuel.
Coucou.
Je vous présente Nathalie Carré, hein. Laurie, Nathalie qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie, qui épluche, qui analyse hein, chaque dossier, chaque candidature pour les trophées de l'avenir Europe 1 La France Bouge. Alors Nathalie, quelles sont les forces et les faiblesses de Nolensa?
Bah déjà le parfum solide, en fait c'est pratique, ça se glisse mieux facilement dans le sac et ça fait pas de taches au soleil parce qu'il n'y a pas d'alcool. Le partenariat aussi avec la marque Candide, vous n'avez pas le temps de le dire, mais ça élargit votre univers des senteurs sans un investissement important de votre côté. Donc Candide c'est des savons. Vous avez aussi créé un club pour faire de la co-construction, de la co-création avec vos clientes, et ça c'est important pour le développement de votre gamme. Et puis surtout bravo pour les aides et les conseils pour le choix de notre parfum. Vos descriptifs permettent de bien imaginer la senteur et de choisir assez sereinement. Alors en fait, votre gros point amélioré, c'est le site internet. D'abord, la page d'accueil. Vu les flacons, en fait, on pense qu'on va avoir un parfum d'intérieur, un vernis à ongles et un baume à lèvres. Du coup, c'est assez déroutant, en fait, parce que notre cerveau est relié à des images. Et donc, peut-être juste le spray avec des photos de des fleurs que vous utilisez, puis une phrase pour confirmer à l'internaute qu'il est bien sur le bon site. Alors, je ne sais pas, la parfumerie qui renchante l'olfactif, c'est ce que vous dites dans votre pitch. Et puis ensuite, la réorganisation des contenus. Simplifier la boutique, l'aide au choix à propos. Et dans la boutique, un choix par senteur. Floral, épicé, boisé, etc. Et une déclinaison par forme. Solide en spray, la recharge. Et pour chaque produit, l'accompagnement. Parlez plutôt d'accompagnement que de personnalisation. Parce qu'en fait, personnaliser, ça laisse penser qu'on va pouvoir créer notre propre parfum. Et c'est pas tout à fait ça. On peut créer notre assemblage simplement entre les deux parfums. Et puis sur les conseils, n'hésitez pas à expliquer comment le parfum solide fonctionne, s'il est possible d'avoir les mêmes senteurs qu'en spray. Et comme si vous êtes en train de développer un nouveau produit, dites-le. Comme ça, on viendra vous voir. Et puis enfin, donnez le nom des boutiques où on peut vous trouver.
Ah, voilà. C'est vrai, moi aussi, j'ai cherché.
Mais oui. Ben oui,
mais je me suis dit que j'étais pas doué, que je le trouvais pas, mais...
Ouais, bon, en fait, a priori, on est deux. Donc voilà, donc simplifier et expliquer pour créer un parcours de découverte, puisque c'est vraiment ça, et d'achat le plus fluide possible.
C'est toujours brillant ce que nous dit Nathalie Carré. C'est vrai, peut-être davantage expliquer hein, cette notion de pédagogie, elle est essentielle pour le client.
Oui, en effet, c'est ce que nous essayons de faire déjà beaucoup. C'est vrai, notamment via nos réseaux sociaux. En fait, on en parle beaucoup et on est très, très, très à l'écoute de notre communauté. C'est-à-dire que c'est toujours moi qui réponds aux messages et on en reçoit des centaines tous les jours pour justement pouvoir aider dans le choix du parfum. Et voilà, on le fait aussi par WhatsApp, par le chat en ligne. Je suis tout le temps en contact avec nos clientes, du coup.
Philippe Benassin, je rappelle que vous êtes le patron d'Interparfum. Vous en pensez quoi avec votre œil d'expert ?
Je pense que c'est très intéressant. D'abord parce que c'est une catégorie nouvelle qui n'existait pas. Vous êtes complètement dans tous les sujets RSE, éco-responsables, qui sont des sujets qui sont devenus très importants depuis 2-3 ans. On en parlait assez peu avant, comme je l'ai déjà répété de nombreuses fois, mais aujourd'hui c'est devenu crucial. Alors j'avais une question à vous poser. Comment on teste les parfums quand on n'est pas client ?
Alors, donc, soit il y a le réseau de revendeurs, évidemment, mais après, si c'est en ligne, donc en fait, le flacon est livré toujours avec son échantillon.
Pour ils vous pouvoir renvoient, le sentir. Ils vous renvoient le flacon.
Exactement.
Après s'ils ne veulent pas le garder.
Tout est organisé. Je suis en train de sentir la DDD. C'est le parfum à base de rose, ils sont très très bons.
Mais justement, Philippe Bénassin, vous aussi, ce mouvement vegan, ce mouvement proche de la nature, cette volonté des consommateurs d'avoir plus de transparence, ça vous oblige à bouger très rapidement sur vos packagings, sur peut-être même la façon dont vous pensez vos parfums ?
Alors, c'est ce qui s'est passé avec Rochas Girl, qu'on a lancé il y a à peu près 6-7 mois maintenant, mais qu'on a commencé à travailler il y a 2 ans, parce qu'on sentait évidemment cette tendance de manière forte. Comme Rochas est une marque qui nous appartient, on n'a rien à demander, puisqu'il n'y a pas de, de marque derrière nous, c'est nous-mêmes. Et on a pu démarrer et faire ce produit Rochas Girl, qui est entièrement éco-responsable, au plus haut niveau possible, dans chaque catégorie, packaging, verrerie, jus, etc. Donc ça doit à peu près rejoindre
Oui, on est sur la même longueur d'onde.
Laurie, vous avez besoin d'être davantage distribué. Est-ce que vous avez besoin de fonds aussi? Vous êtes en pleine levée de fonds, je crois.
Oui, exactement. Donc, on a vraiment deux grandes étapes à franchir. Donc, comme je disais, conquérir l'international, développer, mais surtout aussi, puisque nous sommes toujours en fonds propres aujourd'hui, trouver des fonds pour pouvoir développer la marque comme on le rêve et surtout
mais
ça
fait bien. Vous avez besoin de combien alors?
Disons que
300 000 euros, vous avez dit à notre équipe, allez-y, c'est l'endroit où vous pouvez le dire.
Si on pouvait avoir quelques centaines de mille, ce serait pas mal. Bon. On a beaucoup de projets.
C'est pas assez, faut aller en millions. Hein. Oui, bah, il faut avoir tous les besoins.
Attention.
Parce qu'il voilà.
Elle va vous donner
sa carte de visite rapidement en sortant de l'émission. Et vous avez raison. Merci en tout cas, merci à vous Laurie. Hein. Laurie Mélotte, hein. Ça s'appelle Nolensa. Hein. Ce sont des parfums vegan, clean, bio. Et on vous souhaite une très très longue vie.
Merci beaucoup.
Et Nathalie Carré, on vous dit à demain si vous aussi vous voulez comme ça venir présenter votre projet, une seule adresse mail e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir Europe 1 La France Bouge.
Suite et fin de votre émission, Philippe Bénassin, vous êtes le PDG d'Interparfums, vous restez avec nous encore quelques minutes.
Bien sûr.
Europe 1 La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Je ne sais pas si vous pouvez le sentir à travers votre poste de radio, votre autoradio, mais si vous saviez comme ça sent bon dans ce studio de La France Bouge, là, grâce au parfum qu'Elisabeth a pu tester, il y a vraiment une odeur extrêmement agréable. Et c'est une émission qu'on est bien content de faire une fois de plus grâce à vous, Philippe Bénassin. Vous êtes le PDG d'Interparfums.
Et sur Europe 1, on écoute le monde changer. Et nous, on adore les entreprises qui placent le capital humain au cœur de leurs préoccupations. Et aujourd'hui, c'est le cas avec vous, Pierre Vandenhove. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes le dirigeant de la DV Academy. Ça existe depuis 1965. Vous faites de l'ingénierie, de la maintenance et du contrôle. Vous avez 250 salariés partout en France et vous avez décidé de créer, il y a 6 ans, un centre de formation. Vous avez constaté que les équipes devenaient, comme on dit, c'était des équipes qui vieillissaient. Il fallait donner envie de venir chez vous. Et face à cela, vous avez mis en place un système de mentorat pour transmettre les savoir-faire, tout simplement.
Tout à fait. Donc, moi, je suis PDG de DV Group. Hein, nous intervenons et offrons des solutions d'experts auprès de nos clients en industrie, donc dans l'ingénierie, dans la maintenance et le contrôle. Et évidemment, il était important pour nous, dans la continuité de nos solutions et de nos offres et de l'intégration de nouveaux collaborateurs, de faire du transfert de compétences. Il était donc très nécessaire de mettre en œuvre des solutions très opérationnel, qui permettait de s'appuyer sur, évidemment, les domaines très techniques, très classiques, scientifiques de nos domaines, mais aussi d'apporter à toute la partie expérience, transfert de compétences de nos experts en interne et aussi vers nos nouveaux collaborateurs dans le cadre d'intégration et de développement.
C'est marrant parce que quand on a préparé cette interview, vous avez dit à nos équipes, c'est pas toujours facile parce que nos salariés ne sont pas toujours tous doués pour être formateurs. Ça les change du coup aussi parce que ça leur permet de formaliser d'une certaine manière leurs compétences pour mieux les transmettre.
Tout à fait, c'est tout à fait le cas. Alors évidemment, on s'adresse à des experts, ce sont des ingénieurs, des techniciens qui ont une forte compétence, mais ils sont très motivés pour transférer leur savoir, ils aiment beaucoup ça, mais souvent il manque un peu de pédagogie, c'est un domaine sur lequel évidemment le fait de formaliser une méthode, de bien expliquer l'apport mutuel, de bien évidemment parler de tutorat croisé, ça a permis de structurer leur démarche, de leur donner une approche vraiment intéressante et partagée, et ça a été très bénéfique des deux côtés, aussi bien auprès de nos experts et de notre histoire, de nos collaborateurs historiques, que de nous, nos nouveaux collaborateurs qui eux-mêmes ont été mieux intégrés, ont mieux compris le projet, ont plus fortement partagé nos valeurs qu'on exprime souvent, qui sont la confiance et l'excellence. Et ils sont vraiment rentrés dans cette idée de confiance et dans cette idée d'excellence que nous portons auprès de nos clients.
Vous êtes complètement donc dans un partage de connaissances et ça fonctionne. Philippe Bénassin, vous êtes le PDG d'Interparfums. Vous avez entendu, ça marche hyper fort, très très bien cette année. Record historique. Est-ce que vous recrutez ?
On a recruté pas mal de monde cette année. Déjà, la première chose, on a gardé absolument tout l'effectif de 2020. Il n'y a pas une seule personne qui soit partie malgré la baisse de régime. Mais parce qu'on avait très confiance sur la suite. Ça, vous aviez parlé de Burberry, on avait fait la même chose alors qu'on perdait la moitié de notre chiffre d'affaires. On n'a personne qui n'est parti de la société à cette époque.
Et une toute petite dernière question, parce que c'est un symbole. Vous allez emménager dans les locaux du Parti Socialiste, le fameux rue de Solferino. Vous avez racheté le siège du Parti Socialiste. C'est vrai que vous allez vous installer dans le bureau que Mitterrand occupait ?
Mais Mitterrand a pratiquement pas été là-bas.
Non, mais c'est quand même dans les rares fois où il est allé, vous allez avoir son bureau.
En fait, c'est pas que je voulais son bureau, c'est qu'il est spécialement bien placé par rapport à l'organigramme et par rapport à la circulation dans le bâtiment.
Et je crois que c'est François Hollande qui vous a fait visiter les locaux, c'est ça, les bureaux. Il a fait agent immobilier.
Exactement.
Et ben voilà,
exactement.
Comme quoi tout est possible. Merci à vous, Philippe Bénassin. Vous êtes le PDG d'Interparfums. Merci à vous d'être venu dans La France Bouge aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Emmanuel, nous, on va se retrouver demain. Ah ouais. Je crois que demain, on va au cabaret.
Ouais, exactement, parce qu'eux aussi, ils ont rouvert, ils ont mis du temps à rouvrir, mais le Moulin Rouge, c'est reparti. Et on a voulu savoir justement comment ça se passait en ce moment. Et donc, ce sera le thème de l'émission de demain.
À demain, dans un instant, le flash suivi de Christophe Rondelatte.